Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast ? Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien Wheel of Series, tous les mardis. Allez, en attendant, on a un film à descendre.
Voilà, en attendant, on va descendre des films parce que j'en ai plus rien à foutre. Alors maintenant, je vais y aller, mais alors.
Mais quand est-ce que t'en as eu le foutre?
C'est vrai.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit.
Si te gare que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie.
Salut.
Eric.
Bonsoir.
Yannick.
Salut.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, celui à qui incombe la lourde tâche de rendre audibles toutes les bêtises qu'on raconte. Bonsoir Alain.
Salut.
Et on dit merci à LaTeX pour l'habillage sonore. Cette semaine, direction le Zamunda. On va vous parler de la suite du film culte des années 80, Un prince à New York. Sur le point de devenir le nouveau roi de ce pays africain imaginaire, le prince Hakim Joffer découvre qu'il a un fils. Évidemment, jusqu'ici, il n'était pas au courant. Et ce fils, Lavelle, vit dans le Queens et ignore tout de ses royales origines. Pour honorer la dernière volonté de son père, Hakim décide de se rendre aux États-Unis, bien décidé à rencontrer sa progéniture et en faire son héritier. Réalisé par Craig Brewer, ce film est donc, comme son titre français l'indique, la suite d'Un prince à New York de John Landis. Sorti en 1988, il avait engrangé à l'époque près de 300 millions de dollars au box-office, un film culte qui peut se targuer d'être le premier gros carton mondial avec un casting 100% noir. Pour ce nouvel opus, Exit John Landis, c'est donc Craig Brewer, metteur en scène du récent Dolemite Is My Name, qui mène la danse. Côté casting, on prend les mêmes et on recommence. Eddie Murphy incarne à nouveau le prince, désormais roi, Hakim. Son acolyte Arsenio Hall reprend aussi du service dans le rôle de Semi, tout comme le reste de la famille royale. Mais ce n'est pas tout, de nouvelles têtes font leur apparition, parmi elles Jermaine Fowler, Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan et même une apparition de Morgan Freeman. Au milieu du film, des personnages commentent le cinéma américain, je cite « On a des super-héros à la con, des remakes et des suites de vieux films que personne n'attendait. » Alors cette suite de vieux films, est-ce que ça valait le coup d'attendre 33 ans pour la sortir ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? Allez, je suis toute oui, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Surtout, ne vous battez pas.
J'ai pensé à l'autre, j'ai pas pensé à celui-là, merde.
Moi je veux dire recyclage.
Recyclage.
Moi, je vais dire Franck Dubosc.
C'est deux mots, mais je te l'accorde.
Merci, c'est gentil.
Moi, je vais dire poussif.
Poussif.
Ouais, bah, je vais dire gloubi-boulga. Voilà, comme ça, ça n'interpellera personne de la nouvelle génération.
Très bien. Ce film a été conçu pour être le grand film de Noël 2020 de la Paramount, finalement visible sur Amazon Prime Video pour cause de Covid. On va tout de suite rentrer dans le détail.
C'est le grand film 2020 de la Paramount, là ?
Bah, c'était censé sortir en salle.
Non, mais je veux dire, ils misaient vraiment là-dessus, quoi.
Ils sont pas dans la merde. Hein,
ah, putain.
Initialement, alors, allez-y, rentrez dans le vif du sujet.
Bon, moi, je vais expliquer mon mot-clé. Hein. Je suis un peu le maître du suspense là-dessus. Pourquoi j'ai dit Franck Dubosc ? Parce que, en fait, pour moi, quand on regarde les films de Franck Dubosc et qu'on n'aime pas Franck Dubosc, qu'on sait pas qui est Franck Dubosc, on hallucine un peu. On se dit, mais d'où ? Enfin, il est pas drôle. Parce qu'ils font pas d'efforts, en fait, pour rendre le personnage sympathique. Donc, en fait, que ce soit Camping 2, 3, All Inclusive, etc., c'est des films qui sont catastrophiques. Parce que, en fait, ils ne s'adressent qu'aux fans de Franck Dubosc. Et si tu l'aimes moyennement, tu trouves ça atroce. Et je pensais, en fait, aux gens qui aiment moyennement Eddie Murphy, ce qui est pas mon cas. Moi, je l'adore. Depuis Raw, on en parlait juste avant le podcast. Et en fait, là-dedans, il n'y a aucun travail qui est fait pour rendre le personnage d'Eddie Murphy sympathique. Donc du coup, on se retrouve avec un mec qui est un gosse de riche un peu connard et qui n'est jamais en fait humanisé ni rendu sympathique. Donc en fait, le début commence très très mal. Et puis après, c'est...
Alors cela étant dit, je crois qu'il y a eu, j'ai vaguement lu qu'il y avait eu une sorte de conflit un petit peu entre le réal, les scénaristes, parce que ça devait pas forcément être Craig Brewer qui devait faire le film au départ, et ça se sent gravement. C'est-à-dire que on parle d'un film d'Eddie Murphy, mais c'est pas un film d'Eddie Murphy, il y a pas Eddie Murphy en fait. Tout le problème de ce truc-là, c'est que ça gravite autour de son fils, que la majorité des histoires sont autour de son fils, et que son fils, il est pas drôle. Bon, c'est pas le seul qui est pas drôle dans le film, mais genre, il est particulièrement pas drôle, quoi. Donc ça déjà de base c'était un problème.
On n'a pas vu le même film hein.
Pourquoi ?
Parce que pour moi en fait tous les nouveaux personnages ils existent littéralement pas dans ce film.
Mais je dis pas
qu'en fait
existent.
Tout fonctionne que dans ce que je disais, c'est-à-dire en recyclage, c'est-à-dire en gros
oui, il est quasiment jamais là Eddie Murphy.
En fait il y a Eddie Murphy, tu sais, mais tous les autres personnages en fait c'est Eddie Murphy aussi.
Oui, les autres personnages, bien sûr.
C'était même
je veux dire, le personnage central du premier film est complètement relégué au
d'accord.
Second plan.
Ouais.
Eddie Murphy ne sert qu'à recycler les personnages qu'il avait avant. On se retrouve quand même avec tous ces syndromes de ces films qui veulent être des films hommages, des films compiles. Genre, on veut faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire, d'un côté, t'as un film de scénariste et ça se voit parce que je dis pas que c'est bien écrit, mais je dis, les mecs, ils essayent de résoudre tout ce qu'ils mettent en place avec absolument tous les personnages du film. Sauf qu'il y a, mais genre, au moins 15 personnages de trop dans ce film. Donc du coup, tu te retrouves avec un nombre de scènes incalculables où il faut résoudre le problème de la fille, résoudre le problème du fils, résoudre le problème du père, résoudre le problème du vieux, résoudre le problème de bidule. Tout ça entrecoupé par d'interminables scènes où le réel, il a juste envie de se mettre des potes et danser la bamba là, dans la salle du trône. Parce que moi, le seul souvenir que j'ai du film, c'est ça. Hein. Seul souvenir que j'ai du film,
deux,
c'est
là, tu parles du 2. Bah, là,
ouais, évidemment. Ouais. Seul souvenir que j'ai de ce film-là, c'est 14 scènes qui se passent au même endroit avec des mecs qui dansent, l'autre sur son trône, et c'est tout. Alors t'as l'impression que Clérel, il a fait le film pour faire ça, que les scénaristes derrière, ils ont essayé de raconter 20 histoires en même temps, l'inverse du concept du premier film, avec le mec de New York qui vient là-bas, c'est jamais traité. Après, on te dit, attention, on te sort des blagues de cul un peu parce que tu comprends, on est de la vieille école. Nous, on n'est pas politiquement correct et pas progressiste. Mais en même temps, on peut pas faire ça aujourd'hui parce qu'on est financé par tout ce cinéma qui pousse ce truc-là. Donc du coup, ils vont créer le personnage de la fille du roi qui, elle, doit s'émanciper et tout.
Ouais, mais pareil, c'est pas traité non plus.
Oui, mais enfin, c'est ça le problème. Dire, le problème, c'est que t'as 50 milliards de trucs qui s'entrechoquent, qui sont des films différents, des histoires différentes, des persos différents, et du coup, tu te demandes ce qu'ils racontent, en fait.
Moi, je vais quand même adresser le premier problème, quand même, qui est que, apparemment, il a un fils.
Oui.
Donc n'existait pas en fait dans le précédent. Ils ont dû inventer un flashback.
La manière dont ça s'est amené, complètement.
Tu dis que ça pue déjà.
Et c'est le Deus ex machina de ah oui alors tu t'en es pas rendu compte, tu t'en souviens
mais
pas,
tu t'es fait
mais
violer.
À l'époque.
Ouais mais ça moi je trouve.
Alors attends ouais, je termine bon, parce que oui. Ça c'est ce premier problème et le deuxième problème c'est que donc en fait personne ne remet du tout en question, y compris les méchants que ça pourrait intéresser, genre Wesley Snipes qui se retrouve emmerdé parce que c'est plus sa fille qui va épouser le je sais plus c'est quoi le délire là, tu vois, mais en fait il pourrait être emmerdé, donc se dire tiens je vais poser une enquête pour voir si c'est vraiment le fils d'Eddie Murphy. Non, ces enjeux dramatiques n'existent pas, c'est-à-dire il arrive aux Zamunda, c'est le fils d'Eddie Murphy,
oui,
point
ouais,
barre.
Mais parce que je pense que, ouais mais enfin ça c'est le prétexte à la con dont tu te fous fondamentalement.
C'est
moi
parce
je
que
m'en
le
tape...
sorcier l'a dit.
Non mais je m'en tape de la raison pour laquelle il a eu un fils, on s'en fout parce que le prétexte c'est de produire un contraste qui crée de la comédie. Le premier, tu savais très bien que le Zamunda, c'était absurde. C'est... D'ailleurs, au passage, le Zamunda, c'est le Wakanda. Alors, à ceux qui nous disaient que le Wakanda, c'était génial, t'as envie de dire, c'est dans le genre caricatural à fond les bananes, c'est la même. Hein. Mais il n'y a pas de contraste. Ils n'arrivent pas à créer le contraste dans le sens inverse. Et le pire, c'est que tout l'intérêt du premier film, c'était de créer un personnage improbable, d'un royaume improbable et complètement caricatural. Le sujet, c'était New York.
le sujet, c'était New York. Donc il y a un réel. Donc c'était intéressant de confronter ce réel à un personnage fantasmatique. Dans le sens inverse, tu compares un personnage qui est déjà improbable avec un univers dans lequel il va falloir déterminer des règles, une logique, une cohérence. Et c'est pas possible. Ouais. À partir du moment où ils te disent que les voisins, ils s'appellent Nextdoor, là, ou Voisiland, déjà, t'as lâché l'affaire. À partir de... Alors, on essaie d'être sérieux sur des trucs, et puis t'as Wesley Snipes qui arrive et qui fait.
Ouais, mais sauf que lui, il est bien. Attends, mal, sauf qu'il est un peu rigolo, lui.
Mais lui, il est rigolo. Heureusement qu'il y a Wesley Snipes. Il est en roue libre. Attention, il est en roue libre.
Alors, pour préciser, donc, le personnage incarné par Wesley Snipes, c'est le général militaire qui dirige le pays voisin, le Nextdoria.
Enfin, c'est
qui
un dictateur,
est une espèce de, voilà, de caricature de dictature africaine et qui
enfin, tout est une caricature de...
et qui est un personnage haut en couleur. Ouais.
Et pour préciser aussi, en fait, ce film qui s'appelle Back to America,
Coming to America,
pardon.
Avec un 2.
Ouais, c'est avec ça. Bah, il y a 5 minutes qui se passent en Amérique.
Oui,
donc
pas le sujet.
Déjà,
mais,
en fait,
mais
franchement, ils auraient dû.
En fait, ouais, dans le premier, ce qui fonctionnait bien dans le premier, c'était que c'était un film qui fonctionnait un peu comme une fable, un peu comme les histoires de Rousseau ou de Voltaire.
C'est
d'autres
personnes.
Ouais, c'est ça, qui faisait venir en fait un personnage qui voyait, en fait, qui venait d'un pays complètement improbable. Mais les Zamunda, on le voyait littéralement 5 minutes au début du film. Du coup, c'était outrancier, mais c'était fait exprès pour que on ait ce personnage qui arrive à New York et qui voit la société américaine avec ses yeux de personnage hyper naïf et qui découvre tout ça. Du coup, ça fonctionnait au moins dans ce sens-là. Là, c'est l'inverse, c'est qu'on amène un personnage qui a une vie plus ou moins de merde, on voit qu'il trouve pas de boulot, on voit qu'il galère, on l'amène dans un pays imaginaire, mais que lui découvre, un pays un peu exubérant, on lui dit t'es le roi, du coup le mec il est d'accord, et du coup il y a pas d'enjeu, parce que on te dit on te sort de ta vie un peu nulle et tu vas devenir le roi et tu vas épouser la fille du dictateur d'à côté qui est jolie. Bah, le mec au départ il dit oui,
mais c'est tout le problème.
Et du coup ce Zamunda, je trouve qu'ils arrivent pas du tout à le faire exister, en fait, parce que c'est l'Afrique en CGI sur fond vert, c'est dégueulasse.
C'est pas ça, c'est surtout une mais ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est une vision fantasmée par rapport à des idéologies contemporaines. Ce qui est hyper intéressant dans le premier Coming America, outre tout ce que tu viens de dire, c'est qu'aussi, tu avais une vision de ce qu'était l'Amérique, réellement, c'est-à-dire le black qui arrivait, le premier taf qu'il avait trouvé, c'était passer la serpillière chez McDo. Aujourd'hui, c'est plus tolérable, même si le mec, on te dit, c'est un loser, ça aurait été fondamentalement plus intéressant d'avoir de les voir revenir aux États-Unis, je sais pas, à 30 ans plus tard pour X raisons, et de se confronter à ce qui est devenu New York aujourd'hui. Et là, t'avais un sujet, parce que c'est ça qu'ils ont raté, à mon avis, c'est qu'au-delà de la fable, au-delà du contraste, c'était un film sur New York. Et moi, j'insiste là-dessus. Tout donc, du coup, je ne comprends pas une suite qui ne pense pas traiter ce sujet. Et tout l'intérêt de faire une suite, c'était de voir ce qui était devenu New York aujourd'hui. Et justement, pas le même rapport à la communauté afro-américaine, pas du tout les mêmes rapports idéologiques et sociaux. Ça aurait été intéressant.
Bon, ils essayent de le faire, mais ils les ramènent... Pardon,
excuse-moi. Oui, c'est brièvement abordé au début.
Très, très
justement, quand le fils passe un entretien d'embauche, il y a un clin d'œil à un fauteuil pour deux. On voit les Duke and Duke dans un tableau. Il y a un clin d'œil à Sorry to Bother You, dans lequel, justement, l'acteur joue. On lui dit, attention, prends pas ta voix de blanc pour cet entretien là, c'est clairement une référence au film, et à ce moment là on voit une critique de ces managers 2.0 qui vont
le problème c'est qu'elle dure 5 minutes quoi.
Mais
ça dure 5
voilà minutes. Ça dure 5 minutes
et le reste du film est schizophrène
et ensuite c'est balayé,
parce que même ce discours, même moi c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin je veux le discours sur le progressisme imposé si tu veux entre guillemets dans les médias, ce qui se fait aujourd'hui, on le voit bien quand tu veux financer un film, alors on t'impose certaines choses, tu sens que ça emmerde le réal qui fait passer des trucs, comme quand il te fait sa critique des films hollywoodiens en désavouant lui-même le projet qu'il est en train de faire, et
enfin,
en même temps il se sent...
Ça c'est le comble du cynisme aussi, tu vois, pour moi. Ça c'est le comble du cynisme pour moi, ce genre
oui
de truc.
Probablement, mais au-delà de ça c'est schizophrène dans le sens où tout et son contraire est mis systématiquement au même niveau, c'est-à-dire on va te faire le truc qu'on nous demande, mais en même temps on va te chier dessus 3 secondes après, et puis on recommence à le faire, et 3 secondes après on te chie dessus. C'est hallucinant.
En fait,
moi j'avais du mal à suivre de ce qu'il voulait dire le mec derrière.
Ce qui est terrible, c'est que je pense qu'on a tous regardé le premier avant de regarder le deuxième juste après quoi. Et le problème en fait, c'est que il y a quand même, quand je parlais de recyclage, il y a quand même ce truc où les mecs essayent de remettre en fait des trucs que faisait le premier film. Et si t'as pas revu le premier, enfin,
ah oui, tu
veux dire, tu peux pas. Moi, la nana t'élargué. Qui fait le chien.
Ouais.
Franchement, quand je l'ai vu arriver dans le 2, j'avais déjà oublié, alors que j'avais revu la veille le premier, qu'elle était dedans, quoi. Donc, ça, c'est le premier truc, le truc où il regarde la caméra, qui était un truc que Landis aimait beaucoup faire et tout à l'époque, c'est-à-dire vraiment casser briser le quatrième mur, mais que visuellement, en fait, avec Eddie Murphy qui regarde la caméra. Là, ils le font, mais ça marche pas du tout. Enfin, c'est tout un tas de trucs comme ça. Ouais. Voilà. Et le problème, en fait, de ces persos dont tu parles, c'est que moi, j'ai pas de problème avec le progressisme affiché du personnage. Si, en fait, il y a quelque chose de drôle. Là, encore une fois, c'est pas drôle.
Moi, c'est au-delà de drôle.
Qui sont pas drôles.
C'est moi, ça ne me dérange pas si ça tient sa logique jusqu'au bout. Le film aurait été un film sur la fille du prince Hakim et sa quête d'émancipation. Très bien. Mais moi, on peut pas me dire, je fais ça pour servir une soupe politique à laquelle je crois pas, la déchirer dessus, mais me la faire subir. Après, c'est l'un ou c'est l'autre, quoi. Au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu racontes.
Mais encore une fois,
moi, ça, c'est ça qui me pose problème. C'est la schizophrénie du truc. C'est pas qu'il en fasse ou pas, tu vois.
Le monde dans lequel ils sont, c'est une caricature. Dès le premier, tu le sais.
Ouais.
C'est quand même un truc où il se fait laver le zizi, tu vois, par des nanas. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est une espèce de fantasme complètement débile de royauté, tu vois, voilà. Donc en fait, quand t'as ça dans la suite, normalement tout ce qui va avec, t'es censé faire des gags avec.
Ah oui,
non,
tu vois. Après,
et en fait, il y en a pas.
Il y a pas de gag.
Il y a pas de gag avec les filles de Murphy. Il y a pas de gag avec tout
et
ça, tu vois.
Moi, ça m'a fait
le rite de passage. Ce qui est quand même le truc le plus nul du film, quoi, c'est que le rite de passage, en fait, il lui colle un lion. Le seul moyen de se débarrasser du lion, c'est de lui filer à bouffer des trucs de gamelles pour chat.
Mais c'est tout
ce que vous avez trouvé. Vous avez pas
c'est,
de
c'est
malin.
C'est d'une longueur en plus, ça prend super longtemps et c'est jamais drôle. En fait, moi, c'est horrible, mais j'ai pas ri une seule fois devant le film, quoi. Et il recycle des.
Moi, j'ai ri à Wesley Snipes.
Oui, un petit peu.
Ah ouais, mais moi, même aussi,
c'est
ça. Il cabotine, il m'a. Enfin, même ça m'a pas fait rire, en fait. Ça m'a. Tout m'a. J'ai trouvé ça hyper hyper poussif, hyper comme tu dis recyclé. Il y a des scènes qui sont littéralement les mêmes, qui sont prises dans le premier film, des trucs qui font en miroir, comme tu disais, quand il se fait laver, là c'est la mère de son fils qui se fait laver. Mais du coup, je me dis, quelqu'un qui a pas vu le premier et qui est attiré par l'énorme bandeau sur Prime qui clique et qui regarde le film, mais qu'est-ce que tu comprends à ça, en fait? Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film?
Mais c'est un fourre-tout de 12 milliards de trucs. Je te dis, moi je trouve qu'il y a une réelle schizophrénie. J'aime d'un film qui est une compile de ce que Craig Brewer voulait faire, et Dieu sait qu'on aime bien ce réel, même s'il s'est fourvoyé ici, de ce que les scénaristes voulaient faire en remplissant toutes les cages de la cohérence, de l'évolution de leurs personnages, au-delà de la blague. C'est-à-dire que t'as quand même des scènes entières qui sont construites pour résoudre des problématiques dans lesquelles tu te dis, mais cette scène-là, j'ai même pas essayé de résoudre la problématique en la rendant drôle parce que c'est une comédie. Non, je résous la problématique très premier degré, et en fait, du coup, tu te retrouves avec des scènes entières qui sont absolument pas drôles. Et après, t'as le syndrome film de studio. Moi, ça m'a fait penser au Astérix là, qui avait été fait par le fils Berry là, où pendant 20 minutes à la fin, tu te tapes des caméos interminables de gens, et là, t'es là, alors ouais, on te sort Sultan Peppa, c'est rigolo. Enfin, mais à qui tu t'adresses? Moi, je comprends pas. Et surtout, je suis très déçu par rapport à ce réel que j'aimais énormément avant, et qui avait quand même une capacité à retranscrire une humanité, un sens du rythme. Enfin, il y a énormément de choses qui étaient intéressantes chez Craig Brewer qui sont complètement... Là, il n'y a rien du tout.
Ça se demandait pourquoi il l'a fait. Il l'a fait parce qu'ils ont fait Dolemite ensemble.
Parce qu'ils se sont amusés, quoi.
Avant, quoi.
C'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est le genre de film où ils s'amusent beaucoup plus que nous, en fait. Quand tu vois tous ces caméos, toutes ces scènes de danse et tout, tu dis, ouais, moi, j'aurais bien aimé être là sur le moment, ça avait l'air cool. Par contre, j'ai pas du tout envie d'être devant le film, en fait.
C'est ça, c'est un prétexte pour faire des notes de frais, en fait, ce film.
C'est ça, voilà.
Du coup, c'est un peu triste, mais je vais prendre une scène par exemple qui sur le papier en fait aurait pu être très drôle, je trouve, et me demander en fait, j'aimerais bien votre avis, pourquoi elle marche pas. Et cette scène sur le papier, c'est l'enterrement de son père, et son père est tellement mégalomane qu'il décide d'avoir son enterrement alors qu'il est vivant pour voir à quel point les gens l'aiment.
C'est là où tout le monde chante et danse devant lui qui est dans le cercueil. Là,
super idée.
Et où la cérémonie est présidée par Morgan Freeman, s'il vous plaît.
Super idée, pourquoi c'est pas drôle? Je me demande, en fait, parce que je pense que dans la comédie, en fait, c'est un vrai talent, en fait, d'arriver, non seulement, déjà, quand on a un bon script, là, c'est pas le cas, mais d'arriver à rendre ça drôle sur la caméra. Là, ils essayent même pas.
Ça ressemble à un empilement, en fait.
Ouais. Et du coup, en fait, même cette seule scène, hein, je trouve, qui aurait pu être drôle, même là, ils n'y arrivent pas du tout.
Ouais. Puis il n'y a pas un boulot sur montage, ça se voit, tout est délayé, j'ai l'impression qu'ils comptent des fois uniquement sur... le talent comique de certains personnages, et tu peux pas enlever que la mère du fils là qui vient de New York là, voilà, tu vois, elle a une ou deux répliques qui font mouche, elle a un jeu qui est plutôt marrant et tout ce que tu veux, mais elle est elle est en roue libre, on la laisse. C'est-à-dire, t'as l'impression, il a juste posé sa caméra, il a dit, allez, fais ton show, et à tout le monde, pareil, quoi. Sauf que les mecs, s'ils sont pas dirigés, s'ils sont pas cadrés, s'ils sont pas montés, s'ils sont pas... Pff, il se passe rien, quoi.
C'est pas canalisé. Puis l'autre truc, en fait, qu'il faut peut-être préciser par rapport au premier, c'est-à-dire que... Alors, le premier, il a créé un précédent, en fait, chez Eddie Murphy. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le premier film où il a commencé à faire des personnages avec des maquillages d'Eric Baker, avec des trucs comme ça, etc., etc., qui est un truc que tout le monde a fini par lui reprocher quand il a fait Norbit, quand il a fait tous ces trucs-là, quoi, le professeur Folding. Mais en fait, c'était une manière en fait de ramener ce que lui savait faire dans le Saturday Night Live dans le récit de ce film, quoi.
Donc c'était là, sa marque de fabrique.
Voilà. Et en fait, le truc, c'est que là, tu te dis, bon, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il crée des nouveaux persos comme ça, voir si tu veux qu'il demande à Wesley Snipes d'en faire, voir que tu vois ce genre de choses, quoi. Et en gros, non, les mecs, en fait, quand je parle de recyclage, c'est vraiment ça. Ils reprennent des persos qui, si t'es un peu technique et que tu te rends compte que le film il a 30 ans, t'as l'impression qu'ils avaient déjà 90 ans ces persos de vieux juifs là, c'est ça, dans le truc, et tu comprends pas en fait.
Et il les fait revenir à la salle pour qu'il y ait absolument tout le monde,
parce que tout le monde va au Zamunda, quoi. C'est à dire que en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a un McDo au Zamunda, enfin il y a un McDowell au Zamunda, tu te dis,
mais en plus, le Zamunda, t'as l'impression qu'il y a rien, parce que tu vois ce palais et il y a pas de, il y a qu'un palais en fait, t'as l'impression qu'il y a, c'est ça, et tu dis mais en fait il y a rien d'autre. Puis même ce palais, il est super bizarre, tu vois. À un moment, il regarde par la fenêtre, il voit la savane, il voit les lions, puis quelques plans plus tard, tu vois le palais qui est entouré d'une jungle, et tu fais mais c'est quoi la géographie et le truc,
tout
je comprends
problème.
Pas en fait, tu vois,
tout le problème du truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il y a pas de règles, il y a pas d'univers, c'est pas réfléchi,
il y a pas d'habitants,
c'est pas pensé, c'est voilà, il y a pas de cohérence.
Ouais, il y a qu'un
donc
palais,
du coup t'as aucun contraste qui peut se créer avec les personnages qui arrivent. T'arrives, comme tu disais Steph, dans un fantasme, et ça fonctionne pas.
Mais ils ont fait revenir l'éléphant. Tu vois, le truc en fait complètement aberrant, parce qu'il te montre un flashback du premier où ouais, il fait salut babar comme ça, tu vois, c'est juste une blague de merde, et là le mec revient, quoi, putain.
Oui, il fait revenir l'éléphant, et c'est vrai qu'ils ont tendance à user et abuser des extraits du premier. On en voit quand même un certain nombre.
Ouais, bah,
mais je pense que ce qu'on... On est critique sur ce film parce qu'il faut quand même dire un truc. Je pense que nous tous, on adorait Eddie Murphy avant. Enfin, moi, j'ai grandi avec lui.
Moi, j'adorais.
On parlait de Raw, c'est incroyable. Ouais. Il y a un sketch de Rick Baker qu'il avait fait avec Rick Baker, pardon, pour le Saturday Night Live, qui est un chef-d'œuvre en fait d'humour, où il se déguise en blanc. Je sais pas si vous vous souvenez.
Ah oui, je m'en rappelle.
Et là, tout d'un coup, en fait, juste pour observer comment les blancs agissent quand il y a pas de noir autour, et là, on voit qu'ils ont de l'argent gratuit, qu'ils se mettent à danser. C'est hyper drôle, quoi. Et c'est ça qu'on aimait bien chez lui, c'est que c'était un vrai trickster, c'est que ce mec-là, il rentrait là où ça faisait mal un peu. Donc en fait, ce n'était pas que gratuit. Et là, ce mec-là, c'est devenu un clown maintenant. Je pense qu'en fait, il ne pourrait pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est un peu ostracisé à Hollywood. Aujourd'hui, si on faisait un roast sur lui, ça serait une catastrophe, parce que ce mec-là, en fait, il s'est vraiment vendu et survendu, quoi. Et c'est ça qui nous attriste, en fait. C'est pour ça que je parle aussi de Franck Dubosc, c'est que c'est un mec qui maintenant n'a plus rien de subversif en lui. Et du coup, bah, je suis vraiment déçu, quoi.
Et puis c'est difficile pour lui de le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas bien Eddie Murphy, ou qui le connaissent de nom, il faut leur dire, parce que c'est pas forcément facile à trouver les deux premiers one man show qu'il avait fait. Bon, il était il s'inspirait énormément de Richard Pryor dans les années 70, donc ce serait quand même super aussi pour des gens qui aiment le one man show découvrir des Richard Pryor.
C'est clair.
Mais après avoir découvert Eddie Murphy, parce que il y a vraiment toute une culture black américaine qu'il faut digérer là-dedans. Mais tu regardes Delirious, qui est le premier one man show, et Raw derrière.
Ouais, je suis bien d'accord.
Je le dis aux auditeurs, quand vous avez vu Raw d'Eddie Murphy, vous vous dites qu'il n'y a aucun autre one man show qui arrive à la cheville de celui-là. C'est hallucinant. Ouais. On a Eddie Murphy.
Ah, si, il y en a quand même, mais bon.
Ah, moi, pour moi, non. Enfin, personnellement, pour moi, non. J'en ai vu plein dans ma vie. J'ai une heure et demie parfaite.
Ouais,
parfaite.
Moi,
rythmiquement parfaite. Et même plus que le One Man Show, je finis là-dessus. Même la scène d'intro, filmée, tu sais, exprès pour la sortie DVD ou cinéma du film, je sais plus si c'était sorti cinéma d'ailleurs, où il y a un gamin qui joue Eddie Murphy jeune, qui raconte une blague sur comment il va chier aux toilettes à toute sa famille. Mais plus personne ne fait ça aujourd'hui. Moi, j'étais plié en deux, rien que sur ces 5 premières minutes, avant même le one man show, quoi. Donc, j'intime vraiment les gens de découvrir Raw. Ça s'écrit R-A-W. Et c'était un film sur le stand-up de Eddie Murphy. Et c'est vraiment génial.
Le truc, c'est que après, moi, ce que tu dis, Eric, sur Eddie Murphy, moi, j'ai l'impression que le problème, c'est que ça a toujours été ça, Eddie Murphy. C'est pas du tout nouveau, en fait, de le voir faire.
Tu viens me parler de Golden Child.
Non, mais sans même parler. Enfin, oui, Golden Child, ouais, mais oui, tu vois, je veux dire, il y en a.
C'est qu'il a vite tripé, il a vite tripé quand même.
Il y en a 15 des films comme ça.
Hein, il a vite. Il a eu un début génial, et puis il a ripé.
Je pense que t'étais quand même déjà déçu par Monsieur le député.
Quand tu l'as vu à l'époque, quoi.
Voilà, donc le truc, c'est qu'en fait, le problème d'Eddie Murphy, c'est que Eddie Murphy, c'est une vraie star. c'est un vrai comédien, tu vois, c'est un vrai comique.
Non, mais t'as raison. Ouais.
Mais il a fait plein de films de merde.
Ah bah oui.
Et en fait, plein de films de merde à sa gloire. Et le souci, en fait, c'est que c'est ce qu'on connaît. La plupart des gens connaissent, effectivement. Il faut creuser un peu parce que c'est les trucs, effectivement, les stand-up dont tu parles et tout. C'est des trucs qui sont pas.
Donc, les films des années 80, enfin, c'est la majorité des films qu'il a fait dans les années 80, c'était la bonne période. Ça a ripé. Bah, je pense que Golden Child doit être probablement le vrai début de la rip.
C'est-à-dire le cinquième film.
Oui, bah voilà. C'est déjà pas mal d'en avoir quatre avant qui étaient plutôt
ouais,
sympas.
Encore, tiens, moi, le flic de Beverly Hills, il y a que lui qui est intéressant là-dedans. Le reste du film n'est pas intéressant.
Moi j'aime bien le flic de Beverly Hills.
Moi,
je suis pas que lui qui.
Moi, je suis pas un vrai critique de film.
Non, le flic de Beverly Hills, je suis désolé.
Les vaches ont gagné.
Non. Les autres acteurs sont très drôles aussi. Oui. Non, il y a plein de trucs cool dans le flic de Beverly Hills.
Et même dans le 2.
On en apprend tous les
jours. Même dans le 2.
Mais le 2, c'est déjà Tony Scott. C'est un peu plus un film déjà.
Non, le 2, c'était la Rolex, quoi. La Rolex à 40 ans.
Et en plus, double déception, parce que bon, c'est pour ça qu'on est aussi, je pense, méchant avec ce film. C'est qu'en plus, il est revenu de ses cendres, il n'y a pas longtemps, Eddie Murphy, avec le même réalisateur, dans un film qui s'appelle Dolomite, qui est mortel.
Qui est vachement bien.
Qui est écrit par les scénaristes Deadwood. De quoi d'autre? Ils ont fait Larry Flint aussi.
Man on the Moon.
Enfin, bon, des énormes scénaristes, et le film est mortel. Donc on pensait, en fait, qu'avec ce film-là, on allait avoir le retour d'Eddie Murphy, et on a vraiment l'inverse. En fait. C'est pour ça que je pense qu'on est aussi. Amer en fait quand on parle de ce film, c'est que non seulement il est mauvais mais en plus on est déçu.
Enfin on s'assent, moi je m'attendais quand même à ce que ça soit pas terrible.
Ouais mais bon moi
là, on est aussi déçu parce que enfin je vois pas qui d'autre que des mecs comme nous qui ont grandi avec ça. Enfin la façon dont ce truc est pensé n'est absolument pas pensé pour un public actuel malgré toute la tentative qu'il veut faire de mettre 25 personnages de femmes combattantes qui vont s'émanciper. Malgré tout, tout le truc c'est est clair. Pensé pour des mecs qui étaient comme nous, qui ont grandi avec le flic de Beverly Hills, avec Prince à New York, tout ça. Et c'est complètement à côté de la plaque. Donc moi, je peux même pas lui défendre le moindre truc, quoi.
Ouais,
parce que clair. Pour moi, c'est l'échec le plus fatal d'Eddie Murphy, l'échec le plus fatal de Craig Brewer, et probablement un des plus mauvais films de Wesley Snipes aussi. Donc voilà, enfin pour moi, il y a pas grand chose. Même Salt and Pepper, j'avais de la peine, Salt and Pepper, putain. Choup, enfin, ça m'a jeunesse, ça, bordel de merde, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Elles font un quintal, maintenant, elles ont 90 ans, on dirait qu'elles vont tomber. Non, mais, sans déconner, ça les aide même pas de les faire revenir, les Salt and Pepper. Il fallait mettre un disque, quoi. Fallait pas les faire revenir. Ils sont tous l'air d'avoir 95 ans à l'EHPAD en train d'essayer de se souvenir de leur gloire passée. Non, on peut pas. C'est des films qui ne servent à rien.
Non, mais je pense que t'as tout dit. Si t'as dit que c'est le plus mauvais film de Wesley Snipes, vu les merdes qu'il a fait, je pense voilà.
Et je les ai vus, les merdes qu'il a fait. Mais je pense que là, quand même, c'est chaud. Ouais.
C'est comme si tu disais, c'est un des plus mauvais films Amazon Prime, là, tu te dis.
Oui, bah ouais.
C'est très merde. C'est quand même. Et c'est vrai, en plus.
Ça, je sais pas.
Bon, le coup près est tombé. Yannick, tu ne dis plus rien.
Je dis plus rien.
Vous
je
autres,
dis, non,
est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure, Marie?
Non, bah pour conclure, moi, je rejoins Yannick en parlant un peu moins fort et avec un peu moins de voilà, mais non, mais
c'est
en fait, c'est juste que c'est un film. Je trouve qu'il marche pour personne en fait, parce que nous, on était plus ou moins le public et ça marche pas. Je pense que pour les nouvelles générations qui le connaissent pas forcément, ça marche encore moins. Et en fait, je sais pas. Pour qui il est fait et pour qui il marche. Et pourtant, il a quand même, je crois qu'il a fait un super bon démarrage. Enfin, en tout cas, il donne pas de chiffres, mais Amazon Prime a dit que c'était un bon démarrage et tout. Et c'est vrai qu'il y a des campagnes de pub partout, que c'est mis en avant un peu partout et que les gens en parlent quand même si au final, je vois que les retours sont très négatifs. Mais
c'est le contenu
mais
de la semaine.
Mais t'as envie de
le
voir. Non, mais c'est normal.
C'est le contenu de la semaine, surtout, c'est ça.
Oui, c'est peut-être le contenu de la semaine, mais je pense qu'aussi, il y avait plein de gens qui ont envie qui se rappellent, qui ont un bon souvenir du premier. Ils se disent, c'est cool, j'ai envie de le voir. Bon, ben, tu déchantes. Au bout de 5 minutes.
C'est
voilà.
C'est ça, c'est très dur d'arriver au bout. Puis le fait que, en fait, le truc aussi, c'est que là, comme les cinémas sont fermés, quand tu vas en salle pour 2 heures et t'en sors pas. Et là, c'est des films que tu vois chez toi. Et là, la plupart des films qu'on voit, ils sont quand même pas très bons. Et c'est des films que moi, j'arrête en cours, je fais autre chose, je reviens. Enfin, c'est des films que je vois en 2-3 fois. Certains, je les finis pas. Et je me dis, c'est quand même hyper dur de tomber si bas, quoi.
Alors c'est vrai, parce que moi c'est un truc que je fais jamais normalement regarder des films en plusieurs fois. C'est soit j'arrête parce que ça me casse les couilles, soit je le vois en une fois. Là c'est la première fois que pour cette émission je regardais ce truc en au moins 3 ou 4 fois. Et c'était dur, hein, même en 4 fois.
Ouais, c'est vrai, c'est clairement le genre de film quand par exemple on met sur pause pour aller aux toilettes, quand on vient des toilettes, on a oublié qu'on regardait ce film en fait. C'est on ça. Fait autre chose. Et donc je pense
notre séance toilette était plus mémorable que le
film. Voilà, ouais. Et je pense qu'en fait là, maintenant je commence en plus à connaître un peu les auditeurs parce que j'écoute ce qu'ils disent et je pense qu'ils le regarderont pas en entier en fait.
Bon, on arrête d'en parler alors.
Oui, je pense qu'on peut achever l'enterrement ici, Stéphane. Ouais,
moi, le seul truc que je vais te dire, c'est qu'Yannick, il a dit oh, moi, j'ai rien à dire sur un prince à New York 2. Il l'a dit juste avant, avant qu'on commence à enregistrer.
Mais et comme
je
à
suis
chaque
sûr
fois.
Que c'est la personne qui a le plus parlé.
Probablement. Mais parce voilà. que j'ai la connerie qui est arrivée d'un coup.
Ouais. ouais, mais il a parlé de Ro, c'est cool. Je suis content.
Ouais, Ro, ne regardez pas ça. Trouvez Ro.
C'est exactement. Ça. Si vous voulez vous faire votre propre avis, parce que vous êtes des jusqu'au boutistes, parce que vous êtes des fans d'Eddie Murphy,
et
vous,
vous avez 2 heures à perdre dans votre vie,
ouais. et que bah, voilà, vous avez puni, vraiment rien d'autre à faire, Un Prince à New York 2 est disponible sur Prime Video. Mais sur Prime Video, bah, vous avez aussi Raw qui est disponible. Alors on vous conseille plutôt ça.
Ah, putain, il est sur Prime, je ne savais pas du tout. En
il
France.
Est sur Prime Video. Oui.
Ah, mais alors, impératif.
Et puis, Dolemite Is My Name exactement. Et Delirious sont dispo sur Netflix.
Ah ouais, et d'ailleurs aussi, si les gens ne connaissent pas, quand même, citons-les pour qu'ils l'aient en tête. Je ne sais pas si ça se trouve sur des plateformes ou pas, mais les deux premiers films de Craig Brewer, Hustle and Flow et Black Snake Moan, sont deux super films qu'il faut absolument voir.
En revanche, vous pouvez éviter le remake de Footloose.
Tout à fait. J'avais oublié celui-là, tiens.
Et vous, vous en pensez quoi? Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Boss Level, le dernier film de Joe Carnahan. Une histoire de boucle temporelle façon Die and Retry qui avait laissé l'équipe sur sa faim. Est-ce que vous aussi, vous en êtes sorti mitigé ou bien est-ce que vous avez tout pardonné au réal? Alain, au grand maître du répondeur, dis-nous tout, ils en ont pensé quoi nos auditeurs?
Bonjour Capture Mag. Alors pour le film Boss Level, alors c'est une petite déception, le film aurait pu être beaucoup mieux, mais voilà, tu sens que niveau budget, c'est pas trop ça, les effets spéciaux sont un peu à chier. Mel Gibson, tu te dis bon, c'est l'antagoniste et en fin de compte, c'est vraiment bah voilà, c'est un méchant pourri quoi. Après, tu as peut-être la partie avec son fils qui m'a impliqué émotionnellement et là ça a été une surprise donc du coup, le film, je le trouve, voilà, il est un peu bâtard, quoi. Je lui donne la moyenne, mais vraiment pile, un 10 sur 20, pas plus.
Bonjour Capture Mag, j'ai donc vu cette semaine Boss Level, et même si je rejoins un petit peu l'équipe sur certains défauts, dont surtout les rôles de Mel Gibson et Michelle Yeoh, je dois bien dire que moi, j'étais quand même emporté par le plaisir de cette série B décomplexée et généreuse. Et finalement, si le boss de fin n'est pas vraiment à la hauteur du titre, je trouve que le level design est lui particulièrement bien construit.
Vous ne pensez pas de savoir à quel point je suis content d'entendre toute l'équipe penser la même chose que moi sur Frank Grillo. Je pensais que j'étais le seul, mais depuis son succès sur le film chinois Wolf Warrior 2, ses agents ont réussi à bien le vendre et maintenant ils nous le vendent en leading man quand en fait je pense que le rôle qu'il jouait dans The Grey lui colle beaucoup plus à la peau, le Charlot qui se la raconte un petit peu trop et qui en fait des caisses.
Alors c'est difficile pour moi d'être objectif sur le film parce que je suis un très grand fan de Joe Carnahan, mais c'est vrai que le film est difficilement défendable sur beaucoup de points, les effets spéciaux sont dégueulasses, les acteurs pas vraiment investis, mais je dois reconnaître une certaine sympathie pour l'histoire, pour les émotions que ça a suscité, et fait assez rare ces derniers temps, le film est passé vraiment tout seul, il dure presque 2 heures, mais je me suis pas ennuyé un seul moment, j'ai jamais regardé ma montre. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses, il y a quand même des scènes d'action qui fonctionnent. Et donc rien que pour ça, j'ai envie d'être indulgent avec le film.
Bonsoir à tous, c'est Clarence. Donc je viens de regarder Boss Level. Malheureusement, j'ai pas été très très emballé. Joe Carnahan, j'ai l'impression qu'il nous fait une ressucée de Deadpool. Même humour, même voix off, scénario pas très ambitieux effectivement, deuxième partie. Et plutôt pas mal avec l'enfant. Mais bon, on est très très loin de Narc, du territoire des loups ou de Smoking Aces, voilà.
Boss Level, alors c'est pas un grand film, c'est pas un grand Carnahan non plus, mais je vous ai trouvé dur.
Je suis vraiment déçu par Carnahan. Il avait tout pour faire une pure série B des familles avec un concept qui claque et un casting aux petits oignons. Et puis à la place, t'as un DTV tout cheap qui oublie son concept au bout de 20 minutes. Et moi, je retrouve jamais la viscéralité que j'adore chez Carnahan. Et alors après, en tant que papa, moi, je sauve quand même la relation entre Grillo et son fils. C'est vraiment le cœur émotionnel du film. Mais encore une fois, c'est développé à la truelle. Alors même si tu vois que l'équipe, elle a des bonnes intentions, que Frank Grillo, il est à fond, eh ben, ça va pas plus loin qu'un film de plateforme streaming. Et moi, franchement, ça m'a déprimé pour la semaine. Bon allez, salut et merci pour tous vos podcasts. C'est trop stylé.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Yannick, Stéphane, merci pour vos avis éclairés, votre franc-parler et votre bonne humeur.
Éclairé, je sais pas. Éclairé, je suis pas sûr, mais bon.
Pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Une dernière petite précision, on change de date de diffusion. Mettez à jour vos agendas, à partir de la semaine prochaine, Sale Temps pour un film sortira le mercredi. Allez, cette fois j'ai tout dit, je vous laisse, on se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.